deux invités avec nous chaque soir, trois invités pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi avec nous, stratégiste chez Day by Day. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Grégoire.
À vos côtés, Julien Pierre-Nouan, le directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazard Frères Gestion. Bonsoir Julien Pierre.
Bonsoir.
Et Florent Vabon qui est avec nous également, économiste chez Ecofi. Bonsoir Florent.
Bonsoir Grégoire.
Ravi de vous retrouver, merci d'être là. Oui, puisque je l'ai cité pendant le point bourse de Pauline, sur Ford qui perd 10%, je vous ai vu réagir Valérie. C'est quel est le sens de la réaction?
Ça fait tout plaisir quand on fait une reco.
Vous aviez recommandé quoi? Ford à la vente.
Sinon, j'aurais pas été très
content. Oui, j'entends bien.
Oui, l'automobile, ça n'a pas trop le.
C'est un no-brainer pour vous, l'automobile, se mettre à l'écart de l'automobile et vendre l'automobile si on peut encore aujourd'hui?
Je ne sais pas s'il faut la vendre aujourd'hui encore. Ford, elle était dans une configuration particulière.
D'accord.
Un peu avant les résultats. Donc, on a tenté. Mais dans l'ensemble, oui, l'automobile reste plutôt un secteur qu'on ne favorise pas.
Bon,
pas encore.
On verra si on peut en reparler au cours de cette émission. Mais je voulais quand même commencer avec la dimension politique américaine. Julien Pierre, à une semaine de l'élection, je crois qu'on s'est à peu près posé toutes les questions possibles. Je disais en introduction, le marché semble avoir fait un choix. Alors quand je dis le marché, c'est quand on regarde peut-être le dollar, quand on regarde la courbe et les taux obligataires américains, peut-être aussi du côté des matières premières. Il y a la question des marchés actions. Est-ce que le marché dans son ensemble anticipe aujourd'hui clairement une victoire de Donald Trump dans une semaine, ou est-ce que c'est à discuter?
Je pense que c'est à discuter, d'abord parce que les fondamentaux, en tout cas si on regarde les sondages, nous disent que c'est quand même encore très serré. C'est vrai que lorsqu'on fait les projections en termes de vote au collège électoral, et qu'on regarde les États, les swing states, les sondages, ils sont vraiment très serrés, vraiment dans les marges d'erreur. Donc, si les marchés sont arrivés à une conclusion, on se demande sur la base de quoi. Enfin, je pense que c'est aussi le reflet de ce qu'on voit sur les sites de paris en ligne, qui ont pour le coup effectivement pris un vrai pari dans un sens. Après, si on regarde le comportement des marchés, il y a des choses effectivement qui laissent penser qu'on s'oriente, les marchés croient de plus en plus à ce scénario. Le dollar qui s'apprécie, clairement c'est un signe qu'on anticipe une activité plus forte, et aussi les effets des hausses de droits de douane. Sur les taux, alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui vient de la Fed, qu'est-ce qui vient des élections, et au sein du marché actions, c'est un peu plus mitigé. C'est vrai que le marché américain, globalement, reste très bien orienté, mais on pourrait penser que certains secteurs pourraient être plus dynamiques si on valorisait 100% le scénario Trump.
Et ce filtre sectoriel, il n'est pas aussi évident que ça. Il n'apparaît pas aussi, de manière aussi évidente que ça dans les mouvements des derniers jours sur le marché américain.
Non, il n'y a pas grand-chose de très, très clair. C'est vrai que le marché aujourd'hui reste encore très drivé par tout le secteur de la tech qui reste très dynamique.
Ouais. Bon, Valérie, c'est vrai qu'on commence à l'entendre beaucoup. Le marché a choisi Trump, en tout cas a anticipé la victoire de Donald Trump. Dans quelle mesure est-ce que c'est vrai à une semaine de l'élection?
Bon, ce que le marché a, ce à quoi il pense réellement, on ne le sait jamais, mais c'est vrai qu'on essaye de deviner en comparant les évolutions de différents actifs. Et bon, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Julien Pierre, j'ai fait les mêmes constats à peu près. C'est sûr que, quel que soit actuellement, il me semble que moi, dans mon travail, j'essaye souvent de prendre les hypothèses d'un certain scénario macroéconomique ou d'un autre. Il y en a rarement plus de deux. Parfois, il y en a un troisième, un petit peu entre, mais souvent, il y en a deux principaux. Et quel que soit le scénario que je contemple, je n'arrive pas... L'évolution des différentes variables ne colle jamais correctement à aucun des scénarios.
Le puzzle n'est jamais parfait.
Le puzzle n'est jamais parfait. Alors, si j'oublie cette histoire d'élection américaine et que... Parce que parfois, si on ne sait pas utiliser une donnée, il faut juste s'asseoir dessus, parce qu'on ne peut pas prévoir. Mais si on regarde l'évolution qu'on a eue sur les deux dernières années, donc là, je prends un bon recul.
Okay.
Finalement, que ce soit les taux ou les devises, on a... Alors, les devises, les grandes devises, et notamment l'euro-dollar, parce que le yen, c'est une grande devise, elle a bougé, l'euro-dollar, le dollar index, on n'a pas de tendance, et on est, grosso modo, au milieu de l'espace d'évolution des dernières années. que ce soit sur les taux ou sur le dollar. En fait, pareil à peu près sur pas mal de matières premières industrielles. Donc, sur l'économie, les marchés qu'on dit les plus raisonnables, parce que ce sont ceux qui sont les plus faciles à évaluer, enfin, avec des guillemets quand même, ils disent qu'ils ne savent pas et qu'ils sont prêts à tout.
C'est neutre, quoi.
C'est ouvert.
Ouvert.
C'est ouvert. Donc ça, c'est premier constat. Deuxième constat, en revanche, au cours des deux dernières années, les actions américaines n'ont pas cessé de progresser, avec un petit peu des hauts et des bas sur la tech. Mais dans l'ensemble, les actions américaines n'ont pas cessé de progresser. Alors, quel est le scénario qui est... Enfin, quel est le lien avec Trump, pas Trump, etc. La récession, pas la récession.
Oui.
Parce que tout ça, si
ça fait peut-être pas deux ans que le marché pense à Trump jour et nuit, quand même.
Oui, en fait, en début d'année, même Trump, il n'était pas du tout dans les prévisions.
Ouais.
J'ai réécouté quelques émissions un peu...
Mais vous avez bien fait. Oui.
Et c'était drôle, parce que les avis n'ont pas cessé de changer.
Jusqu'au départ de Biden, oui, c'était pas... Le cas Trump n'était pas évident.
Le cas Trump n'était pas... Et puis, juste après le départ de Biden, le cas Harris est remonté en flèche.
Voilà, c'est ça, c'est ça.
Donc, et puis au milieu de ça, on a eu ce problème de la Banque du Japon, quand même, qui a un petit peu secoué le bananier, mais qui s'est tout s'est calmé, mais qui pourrait revenir sur le devant de la scène. Enfin, je veux dire, c'est quand même une épée de Damoclès sur les marchés, qui n'est plus tellement... Enfin, le yen est remonté, donc les gens pensent à autre chose actuellement, mais il n'a pas fait de nouveau sommet, donc on ne sait pas là aussi dans quel sens... Il peut se diriger un petit peu dans tous les sens.
Le yen est remonté, c'est-à-dire... Enfin, le dollar yen est remonté. Le yen a repris sa dépréciation. On est d'accord.
Voilà.
Très clair.
Donc voilà, il n'y a que les actions américaines qui ont progressé avec régularité au cours des derniers mois. On a un bond des actions chinoises, mais je pense qu'on peut les mettre un petit peu à côté parce que c'est
peu traité à part.
C'est pas de la micro, mais c'est régional. Et puis en Europe, on peut pas dire qu'on est tellement pris de voilà. Donc ce que le marché anticipe. Franchement, c'est pas grand-chose. Je pense juste qu'actuellement, si vous n'avez pas d'avis très fort sur les obligations et que vous avez quand même toujours des allocations à risque que vous ne pouvez pas supprimer, bah vous les mettez sur les États-Unis. Mais pourtant, il y a plein d'incohérences parce que on a.
Donc, si c'est pas Trump, c'est pas dit qu'il y ait un gros mouvement de secousse de réappréciation des marchés.
Tout de suite après les marchés. Il y a peu de chances qu'on ait une grosse secousse, ni dans un sens, ni dans l'autre, parce qu'en fait, quand je regarde les mesures de marché dérivé, le marché américain est super couvert. Mais je pense, hélas, je n'ai pas vraiment la finesse, donc c'est un peu, je m'aventure, mais je pense que c'est des options à échéance relativement courte.
Ouais,
post-électif.
Autour de l'événement.
Autour de l'événement.
D'accord.
Donc il faut qu'on attende que ces options-là tombent pour que le marché puisse bouger un peu plus vite.
Ok, bon. À une semaine de l'élection, là, qu'est-ce qui anime votre réflexion, Florent ?
Ben, je pense en effet, comme mes camarades de plateau, que ce n'est pas évident en fait, comme effet sur les marchés. Il n'y a pas véritablement d'effet Trump à proprement parler, parce que sinon, sur les marchés d'actions, ce serait beaucoup plus clair. Mon intuition est la suivante. Sur les marchés de taux, c'est davantage un effet de politique monétaire. Parce que depuis la réunion du 18 septembre dernier de la Fed, donc qui avait baissé ses taux de 0,50%, on a quand même eu un certain nombre de chiffres économiques qui nous ont montré que l'économie américaine était... toujours là, pour le dire un peu simplement. Et d'autre part, un certain nombre de membres de la Fed ont émis l'hypothèse que peut-être qu'il ne fallait pas aller si vite, pas aller si fort, et qu'en plus, le compte-rendu de politique monétaire qui a été publié un peu après, les fameuses minutes, montre que les dissensions autour du fait de baisser de 0,25 ou de 0,50 étaient plus fortes que ce que laissait transparaître la conférence de presse le 18 septembre. Donc je pense que mis bout à bout, Le taux à 10 ans américain augmente probablement parce qu'il y a un petit effet Trump, mais davantage pour des raisons de politique monétaire, à mon sens.
On était à 3,70 le 18 septembre, on est à 4,30 plus aujourd'hui. Sur ces 60 points de base, vous dites la grande partie de la remontée est plutôt liée à la vigueur de l'économie américaine et au repricing du marché par rapport à des anticipations de baisse de taux trop agressives.
Bien sûr, parce que comme ce qui a été dit, c'est que l'issue des élections, pourtant on est vraiment très très proche, est encore... extrêmement incertaine.
Ouais.
Et donc, de ce point de vue-là, c'est difficile pour les marchés d'anticiper quelque chose qui n'est pas certain.
Ça veut dire que le comment dire ?
En tout cas, qui est pas évident.
Ouais. Mais ça veut dire que la première question, la première réponse du marché, c'est de lever déjà l'incertitude du résultat au soir ou dans les heures suivant le 5
ouais.
novembre.
Bah d'une certaine manière, une fois qu'on saura, on saura. Mais
ouais.
Mais ce que je veux dire, c'est que on en parlait avant avant d'entrer sur le plateau. C'est vrai que si jamais l'élection est contestée.
Elle le sera.
Voilà. Pas forcément. Ça va dépendre du scénario qui se met en place.
J'entends. Oui, si Trump l'emporte.
Grosso modo, il y a 4 scénarios. C'est si Trump l'emporte avec un gouvernement non divisé, donc vraiment la fameuse vague rouge. Donc là, a priori, c'est sans équivoque. Il n'y aura pas de contestation. Ou peut-être une petite. Il y aura peut-être des batailles d'avocats, mais en tout cas, ce n'est pas évident. C'est si jamais il y a quelque chose de divisé où là, ça peut se discuter. Mais c'est plus si jamais Harris gagne avec le Sénat. Ou sans,
ouais,
que là, ça va...
Ah
pourrait, ouais. Voilà. À ce stade, c'est franchement, mettre une probabilité vraiment sur ces scénarios-là, c'est difficile. Très difficile.
Ouais. Comment on réfléchit néanmoins à l'idée d'une nouvelle élection de Donald Trump, de ce que ça pourrait impliquer, alors que ce soit sur le plan macroéconomique, pour la course de l'économie américaine, mais aussi sur le plan quand même des marchés financiers, au-delà de la seule journée du 5 novembre. Julien Pierre.
Alors, on regarde un peu ce qui est dit au niveau de promesses budgétaires. Alors, c'est vrai que aux États-Unis, c'est souvent un peu moins formalisé que l'exercice très européen du cadrage macroéconomique et budgétaire des promesses. Mais en tout cas, on regarde quand même l'addition de toutes les promesses budgétaires. Et c'est vrai que je pense aussi, ce qui joue sur les marchés, c'est qu'on n'a pas des choix sur les questions budgétaires. On n'a pas des choix très polaires.
Ah ben non.
On n'a pas Kamala Harris n'est pas un parangon de vertu budgétaire. Et donc aujourd'hui, avec un déficit qui est de quasiment 7% du PIB, on a deux candidats qui nous disent on va encore en rajouter sur les prochaines années. Les derniers chiffrages, c'est sur donc, l'horizon des 10 prochaines années. C'est d'un côté Kamala Harris, 3 000 milliards de dollars de dettes en plus. Et Donald Trump, c'est 10 000 milliards. Enfin, donc, après, on va rentrer justement là dans les subtilités du système politique américain, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir un alignement de la Maison Blanche et des deux chambres, et là le président peut faire ce qu'il veut sur le plan budgétaire, ou est-ce que ça va rester très partagé, et là on va rentrer dans d'autres éléments qu'il faut avoir en tête, c'est que on a le plafond de la dette qui est mis en place au 1er janvier,
oui.
Et donc quelques mois plus tard, on sait qu'on rentre dans le dur pour le Trésor. Il y a la question des baisses d'impôts Trump qui arrivent à échéance à la fin de l'exercice fiscal qui vient de commencer.
Ouais.
Et donc, voilà. Et pour l'instant, le marché n'a pas encore, effectivement, je pense, les clés de lecture des rapports de force politique pour savoir vers quoi on va. Mais c'est sûr que si on a une vague rouge... Et que Donald Trump fait le plan de relance,
la poursuite
difficile de parler de relance quand on est une économie qui
est qui a 3%. Ouais, j'entends bien.
Mais voilà, s'il fait les mesures dont il a parlé, ça va poser la question effectivement de la soutenabilité de la dette, du niveau des taux à long terme.
C'est une question qui peut très vite venir. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à l'exceptionnalisme américain, le privilège exorbitant, etc. Et en même temps, on a en tête, il y a 2 ans maintenant, de l'autre côté de l'Atlantique et outre-Manche pour nous, le moment Truss. On sait que ça peut aussi aller vite, vite et fort. Mais dans le cas des États-Unis, ce côté vigilance du marché obligataire, il peut s'exercer vite.
Le moment Truss, c'était dans un pays qui disposait aussi de sa banque centrale, donc qui structurellement a une capacité aussi à gérer toutes ces questions de choc de taux d'intérêt.
Ouais.
La question, effectivement, c'est la confiance des investisseurs. Et je pense aussi, pour comprendre le niveau des taux, quel est le scénario d'inflation sur lequel le marché se positionnerait. C'est-à-dire que si on rajoute dans les 3% de déficit en moyenne sur les 10 prochaines années, ça va être inflationniste.
Mmh, mmh.
Donc les taux longs, ils ne vont pas rester là où ils sont.
Ouais.
Et s'ajoute aussi à cela, et ça c'est vrai peut-être plus sur la question du dollar, la question des droits de douane que Trump veut mettre en place. Ouais.
Valérie, vous disiez tout à l'heure, là, quand je regarde les grands actifs, obligataires, devises, on est au milieu des grands ranges de fluctuations qu'on a depuis deux ans. Un scénario Trump clair, c'est-à-dire l'idée de ce qu'ils appellent le clean sweep, et visiblement c'est plutôt côté républicain que la probabilité d'avoir un clean sweep au Congrès est plus élevée. Si on est dans ce scénario-là, oui, ça nous fait sortir ces actifs-là des ranges de fluctuations qu'on connaît aujourd'hui, Valérie ?
En fait, c'est pas comme ça que je peux répondre à la question.
Parce que je vous laisse y répondre.
Il n'y a pas un lien entre un événement et une conséquence. Parce qu'au milieu, d'abord, il y a la confiance et puis il n'y a jamais un seul événement. Donc,
C'est pas juste l'élection de Trump qui ferait bouger ces marchés-là en dehors des bandes qu'on connaît.
Même si Harris gagne et que Trump conteste, que se passe-t-il sur les taux américains ? Enfin, question ouverte, hein, je ne sais pas, je n'ai pas la... Bon. Donc moi, en ce moment, sincèrement, je trouve que, effectivement, tout peut se produire. Mais quand tout peut se produire, pendant un certain temps d'expérience, il ne se produit pas grand-chose sur les marchés financiers. En fait, si avant un événement très attendu, le marché est au milieu du range et qu'il est couvert, ça veut dire que quand il va se déplacer pour aller sur les bords du range, les forces de rappel vont s'exercer, on va revenir au milieu du range. Donc, on n'est pas prêt, le marché n'est pas mûr pour prendre sa direction. Donc ça veut dire que le résultat des élections sera sans doute clair, parce que je pense que s'il n'est pas clair et contesté, là, ça peut bondir. Hein,
pour okay.
C'est parce que c'est assez, je pense que ce n'est pas du tout pricé. Enfin,
compliqué de pricer une incertitude de résultats pendant quoi, 2 heures, 3 heures, 10 jours, c'est compliqué quoi.
Parce que je ne suis pas sûre que ça fasse monter le dollar.
Non.
Enfin, je sais pas. Hein,
ne pas avoir de résultat le soir du 5 novembre, oui, c'est pas
évident.
C'est plutôt
sur le dollar. D'accord. Il n'est pas évident. Donc voilà. Donc ça, je pense que c'est pas dans les cours. Et après, en plus, ça dépend si le marché se met à penser aux effets de second tour de chacun des programmes, parce que le premier tour de ce que l'on connaît des programmes, il est à peu près dans les prix obligataires, en tout cas, hein, a priori. Parce que sur les obligues, on ne sait pas très bien. En fait, on a cette incertitude de l'inflation, des effets de second tour, etc. Enfin, ou de troisième tour, peut-être, même, plutôt. Voilà, donc tout ça, il va falloir du temps. Donc en fait, si Trump est élu, je pense qu'on reste dans le range.
D'accord.
On n'a pas beaucoup de mouvements si Trump est élu pendant un certain temps. Et après, on verra comment les marchés reprennent confiance ou pas, justement, une fois l'événement angoissant dépassé.
L'incertitude majeure, c'est la Fed. Que fait la Fed face à Trump ? C'est plutôt ça le sujet. Et pour les actifs risqués, c'en est un aussi.
Bah, ils ne vont pas réagir super vite.
Pas immédiatement. On
les attendra déjà le 7 novembre. Ils ont un rendez-vous quand même. Ils vont bien dire quelque chose et faire quelque chose le 7 novembre.
Mais rien de surprenant. Enfin, ils ne peuvent pas faire un clash.
Tout changer,
donc s'ils font rien de surprenant, ils baissent de 25.
Non, la question est plutôt sur 2025.
J'entends.
Et le sujet, c'est de se dire qu'est-ce qui est envisagé aujourd'hui par les marchés ? De manière générale, la vision consensuelle consiste à dire que les taux d'intérêt directeurs vont continuer de baisser
jusqu'à
quasiment
3%,
de manière rectiligne tout au long de 2025.
Ouais.
Aux États-Unis, en Europe, partout. Ce scénario-là,
on comprend pas.
Moi, personnellement, je ne l'achète pas.
Oui.
Même sans Trump.
Et encore moins avec Trump.
Et encore moins avec Trump.
Mais ça peut être balayé dès qu'on a les résultats le 5 novembre au soir.
Bien sûr. D'accord. Ce qui n'est pas du tout envisagé.
Ça implique quand même des mouvements de marché, alors
exactement,
je suis pas fou.
Exactement, okay. Ouais. Non, mais moi je suis sur cette ligne-là. Ce qui n'est pas du tout envisagé, c'est une hausse de taux de la Fed. Alors je ne dis pas que c'est le scénario le plus probable.
Courant 2025
Je ne dis pas que c'est le scénario le plus probable, mais ce n'est pas inenvisageable compte tenu du programme de Donald Trump.
C'est quel type de probabilité ?
Il faut vraiment en donner une.
Je sais pas, genre, mais c'est du 10, 15, 20%, ça peut être à ce niveau-là ou...
Aux alentours de 20.
Aux alentours
là,
de 20. Non, je sais, mais.
Non,
bon,
mais je pense qu'il
c'est
faut.
C'est un scénario alternatif.
C'est un scénario alternatif qu'il faut quand même avoir en tête. Parce que, effectivement, s'il est prêt à passer son programme et qu'en plus, il a l'aval des chambres et du Sénat, etc., alors, effectivement, c'est plus inflationniste, au moins au début.
C'est ce que me disait un gérant obligataire il y a quelques jours. Lui, il aime bien suivre la Banque centrale du Brésil dans ce cycle monétaire. En tout cas, ça a été la première à monter les taux avril 2021. La Banque d'Angleterre ne monte les taux qu'en décembre 2021, trois mois avant la Réserve fédérale américaine. La Banque centrale du Brésil a été la première à baisser ses taux à l'été 2023, si je ne dis pas de bêtises. Et le dernier mouvement de la Banque centrale du Brésil, en septembre dernier, alors que le gouvernement a voulu remettre un peu de fiscal et de budgétaire dans la machine, a été de monter d'un cran les taux d'intérêt, le Selic. Voilà. Donc c'est possible, c'est arrivé.
C'est délicat quand même de comparer les banques centrales des pays.
Je suis d'accord.
Pas osé, mais pourquoi pas.
Mais en tout cas, dans ce cycle, la Banque centrale du Brésil a quand même bien vu les choses, bien anticipé.
La Banque du Canada.
La Banque du Canada, ouais.
Qui se rapproche un peu plus
qui vient de faire
l'Amérique du Nord.
Qui vient de faire
des États-Unis.
D'accord. Qui vient de faire une baisse de 50 BPL, c'est ça.
Ouais.
Après 3 fois 25. Bon, sur ces considérations, Banque centrale, oui, ça change tout pour la Fed. Mmh. Ça peut tout changer pour la Fed en 2025
Ça peut tout changer si ça change la question de l'inflation et de la croissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'économie américaine, demain, on va avoir les chiffres du PIB, va être sans doute autour de 3%. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'où vient cette croissance. Le consommateur américain qui est dans une forme olympique, même si les JO c'était chez nous, et qui tire vraiment la dynamique économique américaine. Ce qui était intéressant, aujourd'hui on a eu aussi la première estimation de la balance commerciale des biens aux États-Unis, et ce qu'on voit c'est qu'on a une très forte accélération des importations
de biens
depuis une petite année. Donc ce qu'on voit, c'est que la demande reste très dynamique, essentiellement sur la consommation. Sur l'investissement, c'est plus mitigé. C'est vrai qu'il y a tout ce qui est data center et usine de semi qui est très dynamique, mais le reste de l'investissement, c'est beaucoup plus mitigé. Et il y a aussi la dépense publique. Le côté offre, le côté production, il n'est quand même pas aussi pas génial. C'est vrai que la production industrielle aux États-Unis, elle ne fait plus rien depuis deux ans. Et donc, la Fed, elle peut se retrouver, surtout si on a un deuxième tour de relance budgétaire, face à une demande qui est vraiment trop dynamique.
Ouais. Et donc, à nouveau.
On a un marché du travail qui se détend un petit peu, mais qui n'est pas si détendu que ça. On est jamais qu'à 4,1% de taux de chômage. Oui, si l'activité réaccélère dans les prochains mois, pour des raisons d'esprit animaux ou de relance budgétaire anticipée, pour la Fed, ça va être difficile de baisser autant qu'elle veut le faire. Je rappelle qu'en 1995, cycle de baisse de milieu de cycle, on a eu 75 BP de baisse au total.
Et c'est tout. C'est ça. Et d'ailleurs, on a vu, derrière la baisse de taux de 50 points de base du 10 septembre, on revoit tout de suite des tensions apparaître sur des marchés clés, comme le marché du repo, ou même sur les taux mortgage immobiliers. On voit tout de suite des tensions réapparaître sur ces marchés-là. Comment vous voyez quand même l'évolution des marchés? En tout cas, les jeux sont très ouverts aujourd'hui, Valérie. Est-ce que ça veut dire quand même que le cycle est fort, que l'idée du bull market survit à Trump et à une élection présidentielle américaine qui fait couler beaucoup d'encre? Qu'est-ce qui est tendanciellement encore fort et solide là de ce point de vue?
Ce qui reste fort, c'est le dollar.
Ouais.
Donc moi, si je me projette à courant 2025, je pense que le sens de sortie de ce fameux range, il a plus de chances de se faire à la hausse du dollar. Et donc effectivement, que ce soit Kamala ou que ce soit Trump, l'inflation aux États-Unis, elle va avoir du mal à baisser beaucoup. C'est un euphémisme. Je pense qu'elle va plutôt effectivement se reprendre. Donc les taux, je ne sais pas ce que va faire la Fed au mois de janvier, enfin en janvier,
oui,
trop tôt, mais après le premier trimestre, à partir du premier trimestre, effectivement, en tout cas, les baisser beaucoup, moi ça me paraît pas super probable. C'est pas ce que je peux favoriser sur les graphiques. Au-delà de quelques semaines de mouvement sur les anticipations des opérateurs, mais après sur les tendances, donc taux américain et dollars, pour moi c'est plutôt haussier. Enfin haussier, taux baissier.
Oui, baissier oblig, haussier taux. Oui, oui. Partant des niveaux actuels.
Oui. Ouais. Bah, on est au milieu. Voilà.
Oui, oui, d'accord.
Je vois plutôt des sorties.
Ouais, ouais.
OK. Voilà. Donc, sur les actions. J'ai commencé sur les marchés financiers un peu avant le krach de 87. Les actions ont monté pendant 6-8 mois avec des taux qui montaient et tout le monde valsait. Donc ça peut durer. Enfin, mais je tiens juste à rappeler que on a un nouveau paradigme qui est l'intelligence artificielle qui doit en théorie faire des gains de productivité extraordinaires et faire, c'est une révolution technologique. On a un effet de levier qui est sur le marché, on l'a vu quand il y a eu un petit choc sur le dollar yen. Si vous regardez l'évolution du Nasdaq au cours de la dernière année et l'évolution du dollar yen, bah en fait c'est exactement pareil. Donc l'argent, les yens, ils partent sur le Nasdaq. Le Nasdaq.
D'accord.
Quand j'écoute, alors ça peut toujours être trompeur d'écouter, mais enfin, j'ai quand même... Je peux me tromper, mais j'ai quand même entendu... On peut toujours se tromper, de toute façon, mais...
Un disclaimer facile.
J'y pense tous les jours, c'est un argument opposé, mais quand tu as la télé, je suis obligée quand même de dire des choses tranchées, sinon ça n'a pas d'intérêt. Quand même, moi, en début d'année, j'ai entendu des gens qui pensaient à la récession américaine, qui parlaient de la baisse des taux, et qui disaient donc on va attendre parce qu'il doit y avoir une baisse des taux, mais en même temps l'économie doit être faible, on ne sait pas si ça va être un soft landing ou pas. Donc ils disaient, c'est pas trop, ça devrait s'améliorer, mais on va attendre pour acheter. Et maintenant, quand j'écoute, j'entends des gens qui disent bon, de toute façon, les États-Unis, il faut acheter parce que quoi qu'il se passe,
il n'y aura plus de récession.
Ouais. Donc quand j'ai ce type de discours qui s'inverse, alors que les fameuses valeurs de l'intelligence artificielle, bon, il y en a quelques-unes qui ont beaucoup monté, hein, je veux pas dire. Mais dans l'ensemble, quand même, la tech américaine, pour moi, ne se porte pas si bien en performance relative. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas est-ce qu'on a pris 20% en 3 mois, je m'en fous.
Par rapport au reste du marché.
C'est par rapport au reste du marché et par rapport au sommet qu'un indice avait lui-même fait au préalable. Hein, donc quand on regarde ce genre de... Quand on fait ce genre de comparaison, bah, on se rend compte que les valeurs du Nasdaq, elles sous-performent depuis 2023. Voilà. Elles n'ont pas... dans leur ensemble, hein. Une fois encore, il y a des exceptions. Mais c'est normal. Les plus belles et les meilleures, ce sont celles qui feront leur sommet en dernier. C'est celles qui montent le plus longtemps, qui baissent le moins longtemps. Donc, tout ça, pour moi, c'est quand même les éléments d'une bulle. Et y a encore des choses qui viennent alimenter ces éléments de bulle que je constate sur les positions ouvertes parce que sur les volumes on a beaucoup d'options de vente qui ont été traitées et qui ont tourné depuis le mois d'août sur les marchés américains, je pense beaucoup parce que les gens se sont préparés, enfin le jeu des élections a été tellement bouleversé.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Que les gens se sont couverts. Ouais. C'est vraiment un très gros risque. Donc, ça a un peu complexifié la lecture. Mais dans l'ensemble, le marché est moins couvert en position ouverte qu'il ne l'était il y a 6 mois ou 1 an aux États-Unis. Donc, la confiance sous-jacente, la confiance de long terme, n'a pas cessé de croître. Et c'est ce que j'entends quand je vous écoute. Émissions, c'est aussi ce que j'entends. Ouais. Donc, j'ai des chiffres qui font que... Voilà.
Il y a un phénomène d'exubérance ou d'exagération qui est en train de se mettre en place.
On est dans la phase d'excès de confiance.
D'accord.
Mais comme je vous dis,
ça peut durer.
J'ai déjà vu ces phases-là durer. Donc je sais pas. Et j'ai pas l'impression que ça soit immédiat le 6 novembre que ça explose. Sauf si les Américains prennent les armes ou quelqu'un, on sait pas ce qui se passe. Mais
oui.
Bon, mais sinon, ça peut mettre un petit moment parce que effectivement, le déterminant principal à long terme, c'est sans doute ce que fera la Fed et comment vont tourner les anticipations économiques des opérateurs au vu des programmes qui seront proposés.
Bon, ça risque de bouger assez vite quand même.
Enfin, non, parce que non, on va pas. Ah oui. L'investiture, c'est au mois de janvier. Les programmes, les votes, enfin, ça va prendre du temps. Il y a des mots qui seront donnés, mais Trump, il dit tellement de choses. Si c'est lui, enfin. Oui, si c'est Harris, peut-être que et qu'elle n'est pas contestée, peut-être qu'on va plus vite s'ajuster à ce qu'elle dira. Mais
Qu'est-ce que ça implique aussi pour le reste du monde? Toujours dans l'idée d'un scénario Trump à la Maison Blanche, avec quand même une partie du pouvoir au Congrès. Qu'est-ce que ça implique pour l'Europe, pour le reste du monde, pour la Chine, etc.
Bah, on est face effectivement à des élections qui ont des conséquences au niveau planétaire. Ça, ouais. C'est évident. Et pour une raison simple, c'est que si la croissance américaine, alors elle est déjà très élevée, si elle est encore plus élevée, ça va avoir des effets de contagion sur les autres zones géographiques, premièrement. Pareil pour l'inflation.
Donc c'est plus de croissance pour le monde.
Oui,
potentiellement.
Pas plus mal.
Ah bah non, mais toute la croissance est bonne à prendre, oui.
Mais pour les banques centrales des autres pays que les États-Unis, ouais. Ça veut dire que le couple croissance-inflation est modifié.
Ouais, c'est des règles.
Et que finalement, encore une fois, le scénario 2025 de baisse de taux continue et pas non plus évident.
Même pour une zone comme la zone euro et une banque centrale comme la BCE. Ça,
ouais.
ça peut changer aussi la donne.
Bien sûr. Oui, oui.
On parlait de l'épisode japonais tout à l'heure. Alors, je ne sais pas, ça vous intéresse là aussi. Il y a le dollar fort face au yen qui s'est réaffaibli quand même ces derniers temps, dans un contexte où on a là une exception, c'est-à-dire une banque centrale qui est plutôt allante pour essayer de normaliser sa politique monétaire. Est-ce que l'épisode de l'été est complètement oublié, remis au placard, ou est-ce que c'est le genre d'épisode qu'il faut bien avoir en tête aujourd'hui?
Ces derniers temps, ils ont quand même un petit peu modifié le discours.
Ouais.
Ils se sont montrés un petit peu plus prudents. Certains sous-gouverneurs ont dit attention, c'est vrai que l'épisode du mois d'août...
La stabilité financière, c'est aussi important.
Nous a un peu marqué.
Oui, oui, oui.
Mais quand même, on est dans une démarche de normalisation très progressive. On regarde l'inflation, on regarde les salaires, on regarde la croissance. Il ne faut pas oublier qu'on est... La volonté de la Banque centrale japonaise, c'est d'enclencher une boucle prix-salaire vertueuse. Ça change de la zone euro, de la Banque centrale européenne, etc. Je n'irai pas plus loin. Et de ce point de vue-là, les derniers chiffres d'inflation ne sont pas très très clairs, ne vont pas véritablement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on constate une légère... modération de l'inflation qu'on observait quasi systématiquement à la hausse ces derniers temps, les salaires un peu pareil, et la croissance économique japonaise est en train un petit peu de ralentir aussi. Donc si on prend le parallèle toujours avec Trump et le monde,
ouais.
Si effectivement le monde est en surchauffe parce que les États-Unis sont en surchauffe, ça peut avoir des répercussions sur le Japon, et donc ça pourrait accélérer ce processus de normalisation monétaire,
ouais.
Et dans ce cas-là, les risques financiers potentiellement de débouclage de carry trade, comme on a vu au mois d'août, pourrait ressurgir.
Parce que le marché a repris des positions à la vente sur le yen, enfin, les carries sont remis en place.
On peut se dire qu'il y en a forcément un peu qui sont revenus, mais je pense que les gens sont un petit peu plus prudents. Surtout, il en reste beaucoup, je pense.
Le stock était important quand même de carries sur le yen. Oui, d'accord. Donc ça peut effectivement des effets de répercussion quand même.
Mais là, c'est toujours dans le cas où on se situe avec Donald Trump qui gagne, avec la fameuse vague rouge.
Ouais, hein. J'entends.
Voilà.
Pour l'Europe, qu'est-ce qu'il faut imaginer? Vous évoquiez la question des tarifs tout à l'heure, Julien Pierre. Alors, il y a la Chine. De ce qu'on comprend, alors ça fluctue un peu au gré des discours de Trump, mais normalement pour la Chine, c'est 60% de tarifs supplémentaires. Pour le reste du monde, je comprends que c'est 10% normalement. Pour un pays comme le Mexique, partenaire dans la zone de libre-échange Nord-Amérique, ça peut être 20, 200, 2000, je l'ai entendu, sur les voitures mexicaines. Bref, est-ce que ça abîme profondément effectivement les échanges commerciaux, le commerce mondial, et spécifiquement sur l'Europe? Les derniers discours de Trump que j'ai entendus sont quand même toujours très agressifs vis-à-vis de l'Europe. Alors la Chine, c'est un sujet, il n'y a pas de débat au sein de la classe politique américaine là-dessus, mais sur l'Europe, il est toujours traumatisé par les Mercedes qui roulent sur la 5e avenue, etc. Enfin, non, mais et la phrase clé de Trump, c'est de dire... Sur le plan commercial, nos alliés ont plus profité de nous que nos ennemis. C'est-à-dire qu'il y a quand même un esprit un peu de revanche de ce point de vue-là.
Oui, alors vous savez, pour un économiste, la balance commerciale, c'est quelque chose qui est déterminé domestiquement. Donc le déficit commercial américain, il est le reflet d'une demande américaine qui est très vigoureuse et supérieure à ce que les États-Unis produisent. Donc les droits de douane, c'est pas ça qui va résoudre en fait la problématique du déficit budgétaire américain.
Le consommateur américain voudra toujours consommer, oui.
Oui, alors par contre, il va être soumis à un choc de prix.
Ah bah, bien sûr.
Et dans les dernières perspectives, la dernière livraison des perspectives économiques du FMI, il y avait un exercice de simulation donc sur un scénario d'augmentation de 10% des droits de douane entre Europe, États-Unis, Chine, États-Unis également sur tous les autres partenaires commerciaux et la petite dose supplémentaire sur la Chine. Et ce qui était assez intéressant dans ces prévisions, c'est que finalement, la zone euro et la zone qui s'en sort le mieux en termes de croissance.
Avec 10% de tarifs, on s'en sort mieux.
Ça fait du moins 0,2 de croissance, mais plus sur 2026 que sur 2025. Par contre, les Américains sont touchés assez rapidement et de l'ordre de 0,4 points de PIB.
Donc, c'est plus coûteux pour les États-Unis. S'il y avait des politiques de rétorsion tarifaire, etc., ce serait plus coûteux pour les États-Unis que ça ne serait pour l'Europe si les États-Unis imposaient des barrières à l'Europe.
C'est vrai, assez contre-intuitif, mais finalement, en fait, ça s'explique par le fait que c'est un choc de pouvoir d'achat important pour les ménages américains.
Ah ouais.
Et donc c'est des sujets compliqués. C'est vrai qu'on a un peu tendance en ce moment à peindre la situation économique dans la zone euro en noir, voire en noir foncé. En réalité, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'il y a des indices PMI qui se dégradent, mais les indices PMI sont un peu plus négatifs que d'autres indicateurs économiques comme ceux de la Commission européenne, qui ont été peut-être sur la période récente un peu mieux corrélés à la croissance. On a un taux de chômage qui est toujours au plus bas. Oui. Aux États-Unis, on était passé de 3,4 à 4,1. Zone euro, on est à 6,4, le plus bas des 40 dernières années. Et c'est vrai qu'on a un consommateur européen qui est resté très prudent. Aujourd'hui, la croissance de la consommation dans la zone euro, c'est à peu près 1% sur un an. La croissance du revenu disponible réel, qui est quand même le principal moteur de la croissance, il est entre 2,5 et 3%. Donc,
il y a de la marge.
Les ménages européens ont augmenté leur taux d'épargne. Ouais. Ils ne peuvent pas augmenter indéfiniment leur taux d'épargne. Donc, il y a un moment où je pense qu'on peut avoir des bonnes surprises au niveau de la consommation. Il faudra peut-être de la clarté budgétaire et fiscale dans un certain nombre de pays. mais je pense que la situation économique dans la zone euro n'est pas aussi noire que ce que certains veulent dire.
Je vous entends acquiescer, Florent. Oui. Ouais, d'accord avec la description la zone euro, Julien Pierre.
La prévision économique sur 2025 pour la zone euro, on est un petit peu plus élevé que le consensus. C'est aussi la raison pour laquelle on anticipe que la Banque Centrale Européenne va pas aller
aura moins
aussi
besoin.
Loin que ce que
j'entends.
Le marché. À court terme, il y a urgence, on en a déjà parlé, mais à moyen terme, moins.
Et Trump et les tarifs, si c'est 10% pour nous en Europe, c'est gérable. Un peu de dépréciation de l'euro, un peu de pouvoir d'achat et des épargnes, et ça passe, quoi.
J'ai pas consulté cette étude du FMI encore, mais est-ce que il faut voir si ça évalue les choses, toutes choses égales par ailleurs, parce qu'on a aussi des baisses de taxes du côté des entreprises américaines qui pourraient justement pousser la croissance des bénéfices, les entreprises à rembourser, etc. Et donc on pourrait avoir un nouveau round de croissance aux États-Unis. Ouais. C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué tout à l'heure le fait que si l'économie américaine est en surchauffe, le monde est en surchauffe.
Oui, j'entends.
Voilà.
Bon, terminons peut-être sur les marchés. Valérie, vous disiez tout à l'heure, donc sur les marchés actions, notamment, difficile d'appeler un top là tout de suite maintenant. Est-ce qu'on peut avoir quand même une participation, en tout cas, on a vu la Chine tenter quelque chose. Est-ce que les marchés européens, qui vont pas si mal, les indices européens sont au sommet, là aussi, mais on sait qu'en relatif, l'écart est quand même plutôt grandissant. Est-ce qu'il y a quand même des logiques de rattrapage, de retour à la moyenne qui peuvent se mettre en place dans l'environnement qu'on a essayé de décrire, au-delà du 5 novembre ?
Moi, c'est pas ce que je privilégierais parce que je déteste acheter ce qui baisse et vendre ce qui monte. Je fais systématiquement le contraire. Donc voilà, je peux pas dire que c'est une bonne idée. Ça le sera peut-être, mais ça le sera pas longtemps. Parce que c'est le principe. Voilà. Après, il n'y a que les scénarios assez extraordinaires qui peuvent changer ça violemment. Sinon, c'est une évolution qui va encore prendre du temps.
D'accord. Des marchés lents, en fait. C'est quelque chose d'assez lent que vous décrivez. Pas beaucoup de vitesse, pas beaucoup d'impulsion.
Je pense qu'on reste dans des marchés qui ont une capacité de retour à la moyenne relativement élevée. Donc, on peut avoir des écarts de court terme sur 2 à 4 semaines. Pour moi, ça reste du court terme. Sur 3 mois, 6 mois, je pense que ça ne va pas se décaler dans le bon sens dans l'ensemble. C'est-à-dire que les actions vont plutôt cesser de monter aux États-Unis, en tout cas. Mais c'est pas pour ça qu'elles vont se mettre tout de suite à dévaler. Ah, c'est, normalement, il faut plus de temps pour que les actions américaines baissent franchement. Et est-ce que si les actions américaines cessent de monter, est-ce que l'Europe se met à monter? Bon, écoutez, au début de l'année, tout le monde a dit qu'il faut acheter le Russell 2000. Moi, j'attends toujours de le voir monter plus que le reste. Hein.
Il sous-performe moins.
Voilà.
Déjà.
Bah oui, mais c'est oui, un mais, premier, c'est, mais, un donc, pas. C'est toujours pas le meilleur plan. Non.
Ouais. Julien Pierre, sur une gestion diversifiée, là, comment on gère une situation déjà le 5 novembre dans une semaine et comment on essaye de voir un peu au-delà quand même?
Nous, dans ce contexte, on aime bien le crédit. Ouais. Parce que on a du portage, effectivement, c'est pas forcément très excitant, mais voilà, on est protégé aussi si la conjoncture se dégrade finalement plus que ce que on a pu voir sur les derniers mois, bah il y aura un effet baisse de taux. Sur les actions, je pense qu'il y a quand même une vraie question. Valérie parlait de bulles sur le marché américain.
Oui.
On est à 22 fois les résultats prospectifs sur des hypothèses de croissance de 15% pour l'année prochaine. Cette année, on devrait faire autour de 8% avec une croissance économique à 3%. Donc les 15%, il va falloir aller les chercher avec des marges qui sont déjà au plus haut. Et voilà, donc on va voir ce que disent les entreprises sur les prochaines semaines. Mais il y a quand même déjà beaucoup, beaucoup de choses positives dans les cours du marché
ambitieux,
américain.
Quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, bah, un peu de prudence, quoi. On verra, effectivement. Alors, c'est bien, parce que là, on a tout cette semaine. On a de la macro, les estimations de croissance. On va avoir les résultats de Google ce soir. Et puis, ça continue tout le reste de la semaine. Et dans une semaine, l'incertitude politique levée ou non aux États-Unis. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Julien Pierre-Nouhan, Lazare Frères Gestion, Florent Vabon et Ecofi et Valérie Gastaldi, des Baïdet, étaient nos invités.